au gré du temps. Passent les jours, passent les semaines, les souvenirs nous reviennent. Passent les saisons, restent nos chansons. À vous tous à l'écoute, ici Armand Dubois. Bienvenue à cette émission de la série Destination Bonheur. Notre invité cette semaine est dentiste de formation. Il a longtemps présidé l'Ordre professionnel des dentistes. Au gré du temps, il a développé un intérêt marqué pour une approche globale de la santé. Cette sensibilité marquée à l'égard de la personne et son grand respect envers les malades l'ont conduit probablement à ses fonctions actuelles. Depuis 2006, à la suite de l'adoption de la loi 38, il est devenu le premier commissaire à la santé et au bien-être du Québec, rôle indépendant du politique et dont le mandat est d'adresser des recommandations au ministre de la Santé et des Services sociaux et d'informer l'Assemblée nationale sur différents aspects touchant l'articulation des services de santé et de bien-être offerts à la population. Nous recevons avec grand plaisir un homme de cœur, le commissaire à la santé et au bien-être du Québec, le Dr Robert Sallois. Bonjour, Dr Sallois.
Bonjour.
Alors, un mot sur ce rôle du commissaire qui, essentiellement, est une toute nouvelle fonction.
Effectivement, c'est une fonction qui permet de rapporter à la population la performance du système de santé et les résultats que le système atteint et comment il s'améliore. Vous avez parlé dans votre introduction d'informations. Il y a beaucoup d'informations qui circulent sur le système de toutes sortes. Les gens utilisent des chiffres pour vouloir dire quelque chose. Des fois, les chiffres veulent dire quelque chose de différent. Donc, l'objectif du commissaire, c'est de faire son analyse de la performance du système en utilisant des outils pour mesurer, de rapporter à la population des informations, au ministre de la Santé et aussi à l'Assemblée nationale. Et quand ça se prête ou quand il le peut à partir de ces informations, de faire des recommandations pour améliorer le système de santé. Ce qui est particulier aussi dans cet exercice-là, c'est que le commissaire à la santé et au bien-être va travailler avec des citoyens, puisque la loi lui a dit que dans l'exercice de ses fonctions, il aurait l'aide d'un groupe de citoyens qui vont se rassembler sous un forum de consultation.
Donc, la participation citoyenne est au cœur un peu de votre action.
Tout à fait. Elle est importante et c'est un endroit où la participation citoyenne est particulièrement importante parce qu'on est en santé. Les citoyens sont les propriétaires et les utilisateurs du système de santé et on leur donne une place actuellement d'intervenir avec leurs connaissances, leur savoir, leur expérience, à pouvoir faire des commentaires, des suggestions sur des recommandations que le commissaire va faire. Donc, leur objectif, c'est de réfléchir ensemble, de discuter et d'aider le commissaire dans ses recommandations.
Et tout ça, bien sûr, avec comme objectif d'améliorer les services offerts à la population.
Tout à fait. Et aussi, même on pourrait aller plus loin, non seulement les services à la population, mais aussi l'état de santé de la population et du bien-être. Donc, on sait que l'objectif principal du système de santé, évidemment, c'est de guérir des maladies, mais la santé et le bien-être, c'est plus que le système de santé. Ce sont les conditions de vie, l'environnement et tous les facteurs qui influencent la qualité de vie.
Donc, des facteurs de responsabilisation aussi à l'égard du citoyen?
Bien, tout à fait. Et on espère, avec les citoyens et avec nos travaux, qu'on a insisté sur le fait que le système de santé a un rôle à jouer important dans notre santé, mais c'est pas lui qui est le déterminant à savoir. On a des responsabilités comme citoyens de prendre les moyens pour être capable de faire en sorte qu'on prend de bonnes habitudes de vie, et on prend les moyens pour être en santé, et tout cet exercice-là, c'est pas dû au système de santé. Il y a d'autres facteurs pour l'amélioration de l'état de la santé autre que le système de santé.
C'est un beau rôle, mais c'est une lourde responsabilité qui vous incombe.
C'est très vaste. C'est une responsabilité nouvelle. Et ça n'existe pas, ce type de...
Et c'est une première en Occident ou...
Ben, on n'a pas trouvé de commissaire à la santé et au bien-être dans nos travaux nulle part. Donc, beaucoup de la façon dont on fait nos choses, on invente. On s'est inspiré de d'autres organismes, d'autres organisations qui ont ou tenté de faire des choses semblables à ce qu'on fait, mais dans la réalité, on est les seuls à faire ça. Donc, on doit innover... puis en même
ce qui
temps...
rend probablement la tâche encore plus lourde.
Oui, mais en même temps, ça nous a permis, dans l'exercice, de trouver des outils ou des façons de travailler. Ça a eu un effet rassembleur de rassembler autour de nous des experts, des chercheurs, des gestionnaires, et puis de faire en sorte que ça devient une mise en place qui fait en sorte que on sait pas seulement que 2-3 personnes qui ont réfléchi comment on va travailler commissaire, mais c'est plus un groupe d'individus qui ont accepté de participer à la mise en place du commissaire.
Vous parlez de l'effet rassembleur, on va apprendre au cours de la prochaine heure à mieux vous connaître. Quand on parle d'effet rassembleur, on parle de solidarité. La première pièce, parce qu'on va vous découvrir aussi à travers vos choix musicaux, c'est une pièce qui parle bien à l'égard de ce que vous venez de dire, une pièce de Nicola Ciccone.
Oui, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il chante des chansons à message très souvent. Il a une voix extraordinaire. Et la première chanson parle de 6 millions de personnes, ce qui représente possiblement pas mal la population du Québec.
Ils sont plus de 6 milliards et nous ne sommes que deux à vouloir que l'amour soit le plus grand des dieux. Ils disent que l'on est fou, que nous faisons blasphème, mais nous restons debout. Nous ne les croyons jamais. Ils sont plus de 6 milliards et nous ne sommes que deux à voir que toutes ces guerres ne servent qu'à faire le dieu. Ils disent que l'on est lâche, qu'ils nous mettront des chaînes, mais malgré toute leur rage, nous choisissons la paix. Bien sûr, il y a des jours où nous perdons courage. Bien sûr, il y a des jours où nous faisons naufrage. Mais malgré tous ces jours, malgré tous ces outrages, nous croyons bien qu'un jour, un beau jour, ils sont plus de 6 milliards et nous ne sommes que deux à croire que tous les hommes ont le droit d'être heureux. Ils disent que l'on est sous, que l'enfer est sur terre, mais malgré leurs injures, nous croyons en demain. Bien sûr, il y a des jours où nous perdons courage. Bien sûr, il y a des jours où nous faisons naufrage. Mais malgré tous ces jours, malgré tous ces outrages, nous croyons bien qu'un jour, qu'un beau jour, ils ne seront plus rien. Nous unirons nos rêves, nos joies et nos chemins. Nous irons sans détour retrouver la lumière. Nous serons 6 milliards et ils ne seront plus rien, plus rien. Thank you.
Vous êtes au gré du temps. Nous sommes en compagnie du commissaire à la santé et au bien-être du Québec, le docteur Robert Sallois. Docteur Sallois, vous venez un peu de définir, et la chanson qu'on vient d'entendre parle aussi peut-être de solidarité, vous venez un peu de définir le rôle qui est le vôtre. Si on essayait de comprendre qu'est-ce qui vous a amené comme parcours à occuper cette fonction, parce que de formation, vous êtes dentiste.
Oui, effectivement. Ma formation, j'avais pratique privée. J'ai fait mon cours à l'Université de Montréal. J'ai pratiqué dans les Forces armées canadiennes, puisque c'est à travers eux qu'ils avaient financé mes études. Donc, j'ai remis 50 services en compensation pour les paiements de mes études. Et j'ai ouvert une pratique privée à Sherbrooke. J'ai pratiqué jusqu'en 2004. Mais à travers ma pratique, j'ai toujours été engagé soit dans l'enseignement, à l'Université de Montréal, une journée par semaine où j'allais travailler en clinique avec des jeunes dentistes. Et aussi, j'ai toujours été impliqué dans ma profession à l'Ordre des dentistes, dont le mandat avait la responsabilité de la protection du public.
Donc, l'engagement pour vous en cours de vie, ça a toujours été une valeur importante.
Oui, parce que me semble que je peux pas penser qu'on peut toujours recevoir. Et on a une responsabilité quand on a eu la chance de faire des études, qu'on fait un métier qui est valorisant, qui nous permet d'ouvrir des horizons. Je considère que c'est tout à fait normal qu'en retour, qu'on puisse redonner soit à notre profession à travers les organisations dans lesquelles j'ai travaillé, ou tout simplement en s'impliquant dans d'autres organismes communautaires ou régionaux.
Vous ne l'évoquerez peut-être pas, mais j'ai un souvenir très présent à l'esprit au moment où vous étiez président de l'Ordre des dentistes, de cette sensibilisation que vous faisiez à travers les fonctions qui étaient les vôtres, d'aller donner des services de dentiste dans les régions éloignées, pour les gens qui n'avaient pas accès à ces services professionnels. Vous avez fait un travail remarquable à cet égard.
En fait, l'objectif qu'on a visé à travers la fondation, durant la présidence à l'Ordre, on avait créé une fondation de l'Ordre des dentistes dont l'objectif était de trouver des moyens de pouvoir, dans un but tout à fait volontaire, rien à voir avec la pratique dentaire, de trouver des moyens de rapprocher la dentisterie ou la santé dentaire du citoyen. Et on avait trouvé à travers ça la possibilité de faire une clinique mobile. Et l'objectif qu'on a eu durant toutes ces années, ça a été d'aller rencontrer les personnes dans leur région pour qu'ils viennent nous raconter les problèmes dentaires et nous, en même temps, passer des messages que la santé dentaire, c'est une question, c'est pas une question de dentiste.
On a pu en rencontrer beaucoup de gens de cette façon.
Je dirais des milliers qu'on a vus durant les 5 années que l'autobus a fait le tour. Elle est allée partout au Québec. Et puis, les dentistes aussi, ce qui est intéressant, c'est que les dentistes des régions, quand on allait là, ainsi que les hygiénistes dentaires, en fait, l'équipe dentaire au complet, participait quand l'autobus se trouvait dans une région. Et on allait dans les centres d'achat, dans les centres de jeunes, toutes sortes d'endroits, pour être capable de faire en sorte que les gens viennent nous voir. On parlait de prévention, on parlait de santé dentaire, de bonnes habitudes, d'alimentation. En fait, tous les facteurs qui préviennent les maladies dentaires. Donc, ça a été une belle façon de ramener la dentisterie à l'extérieur du cabinet dentaire puis près de la population.
Trouvez-vous que cette forme d'engagement, qui était bien définie dans le cadre de la dentisterie, est présente dans d'autres types d'activités dans notre société? Est-ce suffisant? Est-ce qu'il y a assez d'engagement dans notre société pour que cette société puisse mieux s'articuler?
En fait, je pense qu'à un moment donné, en quelque part, il y a beaucoup de monde qui s'engage. On n'a pas toujours l'occasion de les voir ou de les valoriser. Les gens font ça de façon plus privée. Mais c'est la seule façon, je crois, que comme communauté ou comme groupe, on peut faire avancer les choses, parce que c'est souvent à ce moment-là qu'on est dans une période d'entraide. Vous parliez de solidarité il y a quelques minutes. Mais aussi, il y a une grande satisfaction à s'impliquer dans ces activités-là. On le fait évidemment pour aider les autres, pour être capable d'apporter. Mais dans le fond, là, quand on a fait le calcul de ces activités-là, c'est souvent nous qui sortons gagnants de ça, parce qu'on sent bien d'avoir pu aider.
Vous y croyez vraiment? Il y a une satisfaction réelle.
Je pense pas que j'aurais pu faire autrement que de le faire de cette façon-là. C'est la seule façon que je crois qu'il faut s'engager. Puis c'est quand on a l'occasion de le faire, je trouve que ce serait égoïste de pas partager cette possibilité-là avec les autres.
Encore une autre chanson presque de solidarité et d'amour que vous avez choisie, une très belle chanson de Cathy Mélois, qui d'ailleurs, cette chanson a connu un succès bœuf en Europe, un peu moins ici en Amérique, si vous voulez nous la présenter.
Ben, c'est « Six Million Bicycle in Beijing ». C'est une chanteuse avec une voix extrêmement douce. D'ailleurs, tout le CD qui s'appelle Piece by Piece, est très beau et c'est une voix très relaxante et douce.
Like the fact that I will love you till I die. We are 12 billion light years from the edge. That's a guess. No one can ever say it's true, but I know that I will always be with you. I'm warm by the fire of your love every day. So don't call me a liar, just believe everything that I say. There are 6 billion people in the world, more or less, and it makes me feel quite small, but you're the one I love. Most of all, of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die. And there are 9 million bicycles. And you know that I will love you till I die.
Avec nous aujourd'hui au gré du temps, Dr. Robert Sallois, commissaire à la santé et au bien-être du Québec. Dr. Sallois, on a parlé d'engagement. Ça vient probablement aussi du milieu familial. Vous venez d'un milieu probablement fort uni. Vous étiez 4 garçons, je crois.
Oui, 4 garçons.
Et la famille, pour vous, ça a une connotation bien particulière.
Oui, on était des... Moi, je suis né en milieu des années 40. La famille chez nous, c'était une famille unie pour toutes sortes de raisons. D'abord, parce qu'on s'entendait bien, puis on était très heureux. Mais aussi, on vivait dans un endroit qui était très restreint. On était comme 3-4 garçons qui partageaient la même chambre.
Vous êtes originaire de Windsor?
Windsor, en Estrie, tout à fait. Mon père travaillait dans pâte et papier à Windsor. Aujourd'hui, c'est Domtar qui est le propriétaire de l'usine. Et c'était à ce moment-là où les activités, on s'amusait beaucoup en famille parce qu'on était proches. Et puis, c'était des beaux moments. J'ai des très beaux souvenirs de cette époque-là. Le plus jeune de mes frères est né un peu plus tard. On avait laissé le petit appartement où on demeurait. Mais c'est des très beaux souvenirs.
Quand vous parlez de jeux en famille, c'est probablement ce genre d'activité qui tisse des liens serrés.
Oui, bien, en fait, c'est ça. On avait... si je regarde aujourd'hui, les jeunes, ils ont beaucoup de moyens de jeux pour s'amuser.
Des jeux parfois individuels avec
oui,
l'électronique.
Oui, bien, c'est la télévision certainement nous amène à ça. Les jeux... toutes les sortes de jeux vidéo. Mais à l'époque, les jeux étaient particulièrement simples. Donc, les jeux qu'on faisait avec... que je faisais avec mes frères, qui étaient plus jeunes, c'était souvent des jeux où on avait deux petits cow-boys, deux petits indiens, puis on s'amusait à imaginer des jeux. C'était beaucoup, l'imaginaire était très, 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 très présent à cette époque-là. Alors,
est-ce qu'on échangeait beaucoup autour de la table? Est-ce que vous avez des souvenirs de discussions avec les parents, avec les frères?
Oui, on échangeait beaucoup, mais c'était quand même des périodes assez tranquilles. Papa travaillait très fort, et puis... c'était à des époques où, à un moment donné, on se couchait tôt.
Oui.
On avait des activités autour de la télévision à cette époque-là où on regardait particulièrement les sports ou quelques émissions qui étaient préférées. À ce moment-là, c'était surtout mon père qui avait le zipper là, pour faire ça. Les jeunes, on n'avait pas de contrôle sur la programmation.
C'était un droit paternel.
Tout à fait. Je pense que c'est encore un droit que les hommes utilisent de façon très, très fréquente. Oui, on avait des discussions, mais très tôt, vers 12 ans, je suis allé pensionnaire. Donc, je retrouvais la famille... l'occasion des fêtes ou durant la période d'été.
Qu'est-ce que vous avez retiré de ces années de pensionnat?
La discipline.
La rigueur.
Oui, puis même à cette époque-là, je venais d'une famille pauvre et puis ça avait été d'énormes sacrifices pour mes parents de pouvoir me permettre d'aller faire mon cours classique. Et puis en contrepartie, je travaillais tous les jours comme laveur de vaisselle au séminaire de Sherbrooke, le matin, le midi et le soir, et ça permettait de payer une partie des études.
Alors, payer au suivant, comme on dit.
Oui, c'est ça. Ben là, c'est ça. À cette époque-là, c'était 26 sous du repas, donc je faisais 75 sous par jour, et on appliquait ça sur ma...
Mais il faut dire qu'avec 75 sous, on pouvait se permettre pas mal de choses à
l'époque. À cette époque-là, effectivement.
dites-moi, vous avez parlé du cours classique. Ça a été une période aussi où vous avez probablement pu exercer de nombreux sports parce que vous étiez un sportif.
Oui, tout à fait. J'étais très impliqué dans le conseil de classe. Même à cette époque-là, j'étais responsable de la radio, même à cette époque-là, si je me souviens bien. J'étais
reporter. Ce qui explique votre aisance.
Oui. En fait, disons que... je pense pas avoir pu faire une carrière à la radio, mais j'étais très responsable aussi des équipements sportifs, des équipes de hockey, des équipes de ballon panier, puis j'étais très impliqué à faire du sport.
C'est une période pour vous heureuse?
Oui, j'étais pensionnaire, je ne m'ennuyais pas du tout, du tout.
Vous avez parlé de la discipline, de la rigueur. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs qui ont probablement pu émerger de cette période d'adolescence?
La camaraderie, probablement. J'ai des beaux souvenirs. J'ai gardé des amis, beaucoup d'amis de cette époque-là où on était jeunes, puis on rêvait, on était en train de se former, d'apprendre, et puis on est en train de rêver aussi qu'est-ce qu'on deviendrait. Plusieurs ont fait différentes carrières et c'était un moment, quand on le regarde en arrière, on se dit on aurait dû passer un petit peu plus de temps, on aurait dû passer plus de temps à réfléchir à cette époque-là. Il me semble qu'à un moment donné, c'était réellement des beaux moments.
Mais aujourd'hui, quand vous y pensez, ça met un sourire sur vos lèvres. C'est probablement pourquoi vous avez choisi la prochaine pièce.
Ouais.
Smile, Ima.
Oui, oui, c'est une jeune femme de Montréal qui a une voix extraordinaire. Et puis, la chanson Smile, elle est particulièrement belle. Elle a une très belle voix, d'ailleurs.
Et ça vous rappelle ses années de jeunesse.
Tout à fait. C'était des années heureuses.
Though your heart is aching, smile, even though it's breaking. When they're all clouds in the sky, you'll get by.
Smile
through your fear and sorrow.
Smile,
smile, and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you.
Light
up your face with gladness.
Hide
every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time we must keep on trying.
Smile,
what's the use of crying? You'll see that life is still worthwhile. Look at those trees of green and red roses too. I'll watch them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful. I see skies of blue and clouds of white. I like the brightness of the day, but I love the dark. And I think to myself, what a wonderful world. Colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of the people passing by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love. What a wonderful smile. What a wonderful smile. What a wonderful
smile.
You give me sunshine. You give me smile.
Smile.